Bonsoir, il est 18h, le moment de votre émission « Une heure en Palestine » comme tous les mercredis sur Radio Galère 88.4, émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Jean-Yves, et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Merci à Sidi qui assure la technique. Alors, nous allons commencer par une introduction, une sorte de préambule sous forme d'édito, qui traitera deux sujets. Le premier sera ce que nous avons intitulé la contre-dérive du CRIF, contre la dérive du CRIF, pardon, lettre ouverte à Yonatan Arfi, qui doit être le président du CRIF.
Tout à fait, c'est le nouveau président du CRIF.
Voilà. Donc deux personnages lui ont écrit, et je vous lis un petit peu, je vous explique ce qu'il en est. Dominique Vidal et Ronnie Broman viennent de prendre l'initiative d'une lettre ouverte au président du CRIF pour dénoncer ce qu'ils appellent la dérive d'une institution dont ils dénoncent la tentation d'endosser le rôle d'une ambassade bis de l'état d'apartheid israélien en France. Et c'est aux citoyens et intellectuels juifs qu'ils ont décidé de s'adresser pour leur proposer la signature de cette lettre ouverte. Et en quelques heures, plus de 70 personnes ont répondu à leur appel. L'association France-Palestine Solidarité considère cette initiative comme importante et très positive. La nécessité de faire entendre une autre opinion juive en France est en effet devenue une urgence que nous mesurons chaque jour dans notre travail de solidarité avec le peuple palestinien. Avec cette lettre ouverte, la possibilité est offerte aux Français juifs de se désolidariser d'une politique israélienne particulièrement brutale, raciste et colonialiste, et de rappeler au CRIF qu'il n'a ni vocation ni légitimité pour défendre une telle politique en leur nom. Je vais donc vous lire le préambule, je vous ai lu le préambule, je vais vous lire le courrier de Ronnie Broman et Dominique Vidal envoyé au président du CRIF. Jamais un président du CRIF n'avait affiché avec autant d'arrogance sa prétention à donner des leçons à tout un chacun, à la République, au gouvernement, aux partis politiques, aux intellectuels et aux chercheurs. C'est pourquoi, comme citoyens intellectuels et juifs, nous avons écrit à Yonatan Arfi afin de le mettre en garde contre le risque que comporte sa démarche par son fond et son ton. Monsieur le Président, le combat contre l'antisémitisme nous anime depuis des décennies comme citoyens, comme intellectuels et comme juifs. Nous divergeons toutefois de longue date avec la conception qu'en défend la direction du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, dont vous êtes devenu récemment le président. Si nous avons décidé de vous écrire, c'est que votre discours au 37e dîner du CRIF nous semble franchir une étape nouvelle et dangereuse dans le positionnement de votre organisation. Jamais un président du CRIF n'avait affiché avec autant d'arrogance sa prétention à donner des leçons à tout un chacun, à la République, au gouvernement, aux partis politiques, aux intellectuels et aux chercheurs. La manière dont vous attaquez nommément Pascal Boniface est inacceptable. Nous n'acceptons pas non plus votre prétention votre présentation, pardon, malgré quelques précautions de la critique de la politique d'Israël et de la défense du droit international. En outre, nous ne pouvons comprendre votre obstination à présenter comme antisémites les idées antisionistes dont vous savez fort bien qu'elles elles ont toujours été présentées et même longtemps majoritaires parmi les Juifs de France, comme ailleurs. Nous tenons à vous mettre en garde contre le risque que comporte votre démarche par son fond et son ton. Vous alimentez, ce faisant, deux clichés antisémites que nous cessons de combattre. Celui selon lequel des Juifs formeraient un lobby cherchant à imposer sa volonté à notre pays, celui selon lequel il manifesterait en réalité une double allégeance à la France et à l'État d'Israël. En profilant le CRIF comme une ambassade bis de l'État d'Israël, défendant inconditionnellement la politique de celui-ci, vous ne trahissez pas seulement sa fonction, vous confortez l'amalgame mortifère entre un gouvernement israélien qualifié de fasciste par un ancien Premier ministre et les Juifs de France que vous contribuez à transformer en cible. Il est temps de revenir à l'inspiration de notre ami Théo Klein contre la concurrence des mémoires et des victimes pour une lutte commune pour la paix au Proche-Orient contre l'antisémitisme et le racisme. Voilà donc la lettre écrite par Ronny Broman et Dominique Vidal au président du CRIF. Mais il y a une autre actualité qui ferait faire partie de cette ouverture, c'est la visite en France du ministre Smotrich, qui a été obligé, en répandant une fausse nouvelle avec la complicité du gouvernement israélien, de cacher sa venue à Paris ce dimanche 19 mars pour assister à un hommage à l'ancien président du Likoud, Jacques Kupfer, et de s'y rendre en catimini. Voici, alors je vous lis là un communiqué de BDS France. Le fait que ce sulfureux ministre israélien des Finances, avec l'aide de son gouvernement, chassé par la porte et ait été obligé d'entrer en douce par la fenêtre, en dit long sur la nature et les pratiques du nouveau régime israélien. D'abord prévu au pavillon des Princes dans le 16e arrondissement de Paris, ce sont finalement les salons Hoche dans le 8e arrondissement qui ont accueilli cet événement par une réorganisation de dernière minute. Cause réelle de l'annulation, selon le responsable du pavillon des Princes, un contrat qui n'a pas été respecté. Les responsables de cet événement avaient parlé d'un ministre, mais ne nous ont jamais dit que c'était M. Smotrich. Si cela avait été le cas, jamais nous n'aurions accepté. Au pavillon des Princes, nous prenons d'autres valeurs, précise la responsable. À l'invitation d'une association française juive d'extrême droite, Israel Forever, derrière un pupitre décoré d'une carte représentant le Grand Israël, incluant non seulement l'État hébreu mais aussi tous les territoires palestiniens occupés, illégalement, Gaza, le Sinaï, une partie de l'Égypte, jusqu'à la Jordanie et la Syrie, M. Smotrich a déroulé une allocution pleine d'affirmations mensongères, de contre-vérités historiques, allant jusqu'à déclarer que le peuple palestinien est une invention. Derrière ce sinistre personnage figurait en bonne place le logo du KKL France, Front National Juif, alors que ce fonds avait annoncé se retirer de l'organisation. Dans une interview à la chaîne I24 News, M. Smotrich s'est permis de citer la campagne BDS ainsi que le refus des diplomaties européennes de le recevoir. Mais il a été obligé de répondre à la polémique concernant le village d'Ouara et ses propos sur la nécessité d'effacer la ville de la carte, en répondant « J'espérais que vous ne vous souviendriez pas de ma réaction. Pour notre part, nous nous souvenons de tout, de son racisme anti-palestinien, de son homophobie, de son antiféminisme, de son suprémacisme et de sa participation à un gouvernement criminel. » Voilà ce qui est le...
Il faut vraiment dénoncer cette intervention, cette venue en France, parce que accueillir des fascistes comme lui, c'est quand même un peu gros. Hein. Et personne n'a rien dit.
Oui, c'est ça.
Darmanin ou oui. Macron.
C'est qu'en plus, il vient comme un voleur, mais en plus, quand les autorités françaises ont connaissance de sa venue, il n'y en a pas un qui la condamne et qui condamne le bonhomme.
Alors, une petite remarque à propos du KKL qui avait annoncé se retirer de l'organisation. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais le KKL, donc, c'est un fonds qui a permis d'acheter les terres au début en Palestine. Et c'est lui qui s'occupe maintenant de tout ce qui est planter des arbres en Israël. Donc il fait des appels de fonds en Amérique, aux États-Unis, etc., de façon à planter des arbres sur les ruines des villages palestiniens qui ont été détruits donc en 1948, puis en des années suivantes, et en 1967 aussi, du côté palestinien.
Alors donc, maintenant, on vient sur un dossier qui a été une victoire quand même.
Oui.
Sur la liberté d'expression, mais cette fois en France.
Voilà, liberté d'expression qui est quand même mise à mal par le gouvernement. En fait, Salah Hamouri, donc c'est un avocat franco-palestinien qui a été emprisonné sous le titre de la détention administrative en Israël. Donc il a été expulsé d'Israël il y a un ou deux mois. Et en fait, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pris le 15 mars un arrêté d'interdiction parce que Salah Hamouri devait faire une conférence de débat organisée par différentes associations, dont la FPS Lorraine Sud. Et le tribunal, donc l'AFPS, Salah Hamouri et les autres d'autres associations ont déposé un recours au tribunal administratif et celui de Nancy a suspendu le 16 mars cet arrêté d'interdiction. Et du coup, le tribunal a donné raison aux associations et l'État a été condamné à payer 1 000 euros à chacun des requérants. Le tribunal administratif a précisé que lors de ces conférences, Salah Hamouri n'a tenu aucun propos susceptible d'être pénalement sanctionné ou de susciter des menaces à l'ordre public, parce que c'est souvent l'excuse qui est utilisée par les préfets pour interdire des manifestations. Et par contre, donc le tribunal a reconnu l'atteinte grave et manifestement injustifiée à la liberté d'expression et de réunion. Et Salah Hamouri a pu s'exprimer en public le soir même en Nancy. Donc, pour justifier l'arrêté, donc, le préfet avait pris le prétexte d'une contre-manifestation appelée par des organisations juives qui se font le relais de la politique de l'État d'Israël en France. On a l'habitude de
cette façon de
fonctionner.
Voilà, ça c'est typique, c'est-à-dire c'est pas vous qui êtes en cause, mais c'est les événements que vous risquez de déclencher, parce qu'il y a des gens qui vous aiment pas, qui vont venir semer la pagaille autour de l'endroit où ça se passe, par exemple, aussi.
Tout à fait.
Simple
alors,
que ça.
Il faut quand même remarquer que même si certaines associations ont jugé qu'on était dans l'affaire dont tu as parlé avant de Smotrich, on est un peu dans la même situation, mais à l'envers. C'est-à-dire que il y a des associations anticolonialistes, tout ce que tu veux, qui ont appelé à manifester contre la venue de Smotrich. Mais là, le préfet n'a rien interdit, quoi. Personne n'a rien dit. Voilà, on laisse faire, alors qu'on sait, on sait qu'il va y avoir des manifestations contre sa venue, peut-être en espérant qu'on va pouvoir casser du gauchiste, de l'antisémite, etc. Enfin bon, je ne sais pas trop, mais on peut se poser la question en tout cas, voilà. Et donc, il y a 19 organisations qui se sont adressées directement à la Première ministre au début mars pour lui demander de protéger la liberté d'expression et des réunions et clarifier la position du gouvernement sur Salah Hamouri, parce qu'il est toujours à la merci de ces interdictions. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut vraiment compter sur notre gouvernement pour changer quoi que ce soit quand on entend Darmanin, qui ne devrait plus être là après toutes les affaires et les casseroles qu'il a au cul. Hein. Mais bon, voilà.
Alors maintenant, je vais continuer avec un communiqué de la FPS sur le nettoyage ethnique de la Palestine, scellé le 10 mars 1948 dans le plan d'Alep et qui se poursuit 75 ans après. Alors peut-être là, Jean-Yves, peut-être préciser ce qu'est le plan d'Alep. Parce que moi, je n'ai trouvé que Dalet, c'est la quatrième lettre de l'alphabet hébreu. Et en plus, c'est le symbole du passage d'un monde à un autre. On va voir que le passage d'un monde à un autre est épouvantable dans ce cas-là.
Alors, je ne sais pas si la lettre a été choisie, intentionnellement, ou alors si c'est un hasard. Parce que, d'après ce que j'ai vu en 1948... à partir du moment où l'ONU a dit on va partager la Palestine en deux, Ben Gurion a mis en place des plans pour justement pouvoir déclarer la naissance de l'État d'Israël, pouvoir aussi le libérer, entre guillemets, bien entendu, de ses habitants, parce que il y avait des habitants, les Palestiniens, et donc il y avait trois plans qui avaient été faits, A, B et C, pour éliminer. Faire partir ou tuer les Palestiniens. Et finalement, c'est un plan D, donc, parce que les plans A, B et C n'avaient pas été choisis. Quoi. Les plans B et D, les plans A, B et C n'avaient pas été choisis. Donc, ils ont élaboré le plan D. Et Ilan Pappé, donc, c'est un historien israélien, il précise dans son ouvrage paru en 2008, le nettoyage ethnique de la Palestine, donc le titre dit bien ce qui s'est passé, que c'est ce plan D qui a scellé le destin des Palestiniens sur les territoires que les dirigeants sionistes avaient en vue pour leur futur État juif. En fait, ce plan prévoyait l'expulsion totale et systématique des Palestiniens. Et il contient aussi un répertoire de toutes les méthodes de nettoyage ethnique à utiliser par l'armée, la Haganah à l'époque. Et les descriptions sont même très claires. Hein. Ces opérations peuvent être menées de la manière suivante. En détruisant les villages, en y mettant le feu, en les dynamitant et en posant des mines dans les décombres, notamment ceux qui sont difficiles à maîtriser en permanence. Description d'opérations possibles, monter des opérations de ratissage et de contrôle conformes aux directives suivantes, encerclement des villages, recherche à l'intérieur, et s'il y a de la résistance, les éléments armés seront éliminés et la population expulsée hors des frontières de l'État. Donc c'était une préparation du nettoyage ethnique de la Palestine telle qu'il continue à se dérouler aujourd'hui.
Et donc c'est ça, c'est-à-dire quand ils disent « la Nakba n'a jamais cessé » et se poursuit 75 ans après. Donc je transmets moi le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité qui dit, enfin celui qui l'a rédigé, « Fin 1947, quand les Nations Unies recommandent la partition de la Palestine en un État juif et un État arabe, la Palestine est habitée par un tiers de juifs et deux tiers d'arabes palestiniens. Un an plus tard, 80% de la population arabe palestinienne du territoire devenu israélien vit en exil dans des camps de réfugiés. Plus de 500 villages et 11 quartiers de villes palestiniennes ont été détruits ou rasés. Ce nettoyage ethnique a été méticuleusement préparé, tout particulièrement dans le fameux plan d'Alet. En quelques mois, les dirigeants du mouvement sioniste ont organisé le transfert, par la violence et l'intimidation, de la population arabe palestinienne. On est très loin du mythe officiel israélien selon lequel les Arabes palestiniens auraient quitté leurs terres de leur plein gré. Oui, ce que certains éditorialistes appellent l'exode. J'insiste, chez les mainstream, ça s'appelle l'exode. Ou encouragés par les États arabes voisins. La Nakba, la catastrophe qui marque la dépossession, les massacres et l'expulsion de 800 000 Palestiniens de leurs terres, est l'aboutissement d'un plan systématique. Quand en 2000, Ariel Sharon, devenu Premier ministre d'Israël, déclare « Nous allons maintenant achever ce qui n'a pas été achevé en 1948 », les choses sont claires. Ce qui n'a pas été achevé, c'est le processus dont la Nakba a été l'apogée. Le processus d'expulsion et de dépossession du peuple palestinien de son territoire ainsi ainsi que du droit à son histoire et à sa culture. Ce processus est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Extension à outrance de la colonisation en Cisjordanie, comme ligne directrice du nouveau gouvernement israélien, loi visant à expulser les Palestiniens, dépossession et déplacement forcé des populations bédouines et destruction de maisons des deux côtés de la ligne verte en sont autant d'exemples. Au service de ces objectifs de nettoyage ethnique et de dépossession, l'apartheid doit être dénoncé pour ce qu'il est, un crime contre l'humanité. Il doit être démantelé pour que le processus de la Nakba, entamé il y a 75 ans, prenne fin.
Dans ton discours, là, tu as parlé de les Palestiniens auraient quitté leurs terres de leur plein gré ou encouragés par les États arabes voisins. Mais ça, la plupart des gens le croient. Et je me souviens avoir vu dans une émission de radio, il y avait, il me semble qu'il s'appelle Ivan Attal, c'est un comédien, non ?
Oui, c'est un comédien. Voilà, oui. Très sioniste, hein.
Impressionniste, voilà, et il dit, mais les Palestiniens sont partis parce que les États arabes leur ont demandé de le faire pour libérer la place, pour pouvoir faire la guerre tranquillement, quoi. Et personne a repris ça, alors qu'aujourd'hui, c'est évident, tout le monde sait, parce que les historiens israéliens eux-mêmes l'ont dit, c'est pas le cas, ils ont été chassés de leur terre, c'est donc la Nakba, comme tu disais. Voilà.
Alors, voilà, je te passe la parole.
Je vais donner quelques informations sur toutes les exactions commises contre les Palestiniens par les colons et l'armée, que l'on dit la plus morale du monde. Et les infos que je vais vous donner sont tirées du site Info Gaza, qui est tenu par le Palestinian Center of Human Rights. Donc c'est un rapport hebdomadaire. Je ne vais pas vous lire le dernier rapport, mais vous faire en quelque sorte la synthèse de ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2023. Et donc ça, c'est à la date du 8 mars. Je n'avais pas encore les éléments suivants. Et par exemple, atteinte au droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Donc, depuis le début de l'année, les attaques des forces israéliennes ont tué 73 Palestiniens, dont 36 civils. Donc, il y avait 12 enfants et une femme parmi eux. Les autres étaient des membres de groupes armés palestiniens. Et donc, il y a 5 Palestiniens qui ont été tués par des colons. Et un Palestinien mort dans les prisons israéliennes. Pendant ce temps, 335 Palestiniens, dont 45 enfants, 2 femmes et 8 journalistes, ont été blessés. Rasage de terrain, démolition à vie, donc c'est une autre façon pour Israël d'essayer de chasser les Palestiniens. Donc il y a 60 familles depuis le début de l'année qui ont été rendues sans abri par destruction de leur maison, ce qui représente un total quand même de 383 personnes, parmi lesquels 76 femmes et 171 enfants. Donc, résultat de la démolition de 62 maisons, 16 ont été démolies par leurs propriétaires et 6 pour des motifs de punition collective. Pourquoi les propriétaires démolissent leurs maisons ? Parce que l'armée le leur impose, et s'ils ne le font pas, ils vont devoir payer l'intervention des forces d'occupation. Et donc, Israël a détruit aussi 55 autres biens civils et délivré des dizaines d'avis de démolition et d'arrêt de construction en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Donc, je rappelle que les constructions par les Palestiniens pour avoir des permis de construire, c'est extrêmement difficile puisque c'est à la merci de l'armée, hein. Et donc, ils construisent quand même parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part. Et après, on leur détruit. Donc, il y a des attaques de colons. La plus grave, c'est celle de Huwara au début mars ou fin de février, je ne sais plus exactement. Et en fait, depuis le début de l'année, il y a eu 143 attaques contre des civils palestiniens et leurs biens. En conséquence, 5 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés. La plupart d'entre eux après avoir été battus. À propos de Huwara, et pour montrer la façon dont les médias mainstream traitent l'information, C'est avant-hier soir que le journal de France 2 a parlé de Youara après 3 semaines de silence donc sur ce pogrom, comme l'a appelé un général israélien, sur ce pogrom commis contre un village palestinien où ils ont brûlé des voitures, ils ont brûlé des maisons, ils ont mis le feu à tout un tas de trucs, en prenant prétexte, même si effectivement c'était... pour eux, c'était important qu'il y avait un jeune qui avait tué 2 colons israéliens. Mais bon, les colons, c'est des occupants, hein, donc on peut imaginer, enfin, on peut penser que c'est de la résistance de la part des Palestiniens. Donc, il y a eu des incursions et des arrestations de civils par les forces d'occupation, avec 1976 incursions en Cisjordanie depuis le début de l'année, y compris à Jérusalem-Est occupée. Il y a 974 Palestiniens qui ont été arrêtés, 18 femmes et 130 enfants. Et les forces d'occupation ont mené 8 incursions et arrêté 15 Palestiniens dans la base de bande de Gaza. Et dernier point, bouclage, parce qu'il y a des restrictions à la liberté de mouvement. Depuis le début de l'année, les forces d'occupation ont établi 1207 points de contrôle militaire temporaire et arrêter 52 Palestiniens à ces points de contrôle. Voilà.
Voilà, et on continue.
La situation des Palestiniens.
On continue sur le même registre, à savoir que depuis le début de l'année 2023, pour la seule Cisjordanie, on compte 81 morts. Alors on s'est engagé à vous faire des bilans. Jean-Yves vient d'en faire une partie. Je vais continuer parce que tous ces morts ont des noms, ont des visages et il ne faut pas les oublier. Alors, semaine dramatique en Cisjordanie occupée porte depuis le début de l'année à 91 le nombre de victimes tuées par l'armée israélienne ou des attaques de colons extrémistes. Enfin bon, je crois que extrémistes, ils le sont tous. Il est important de mentionner que 10 des 13 personnes tuées cette semaine sont mortes dans le gouvernorat de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, illégalement. Cette région ayant été la cible de 2 raids militaires de grande ampleur le 7 et le 9 mars. Le 7 mars 2023, l'armée israélienne a lancé un raid meurtrier dans le camp de réfugiés de Jenin. Au total, 7 personnes ont été tuées et 16 personnes ont été blessées par balles. Les personnes tuées, il est important de les nommer, s'appelaient Mohamed Wael Ghazawi, 26 ans, Maj Mohamed Husseinei, 26 ans, Tarek Ziad Natour, 27 ans, Ziad Amin Zaraini, 29 ans, Abdul Fat Hussein Krousech, 49 ans, et Moutazem Nasser Sabag, 22 ans, et enfin Walad Nasser, 14 ans. Le jeune Walad Nasser a succombé à ses blessures le jeudi 9 mars, pendant que se déclenchait à Djaba le deuxième raid de grande ampleur de la semaine dans le gouvernorat de Jenin. Lors d'un raid matinal, les militaires israéliens ont tué 3 Palestiniens qui étaient dans une voiture. Les soldats venaient pour les arrêter. Ces derniers, ayant résisté, ils ont été abattus dans cette même voiture. Ils s'appelaient Soufiane Fakouri, 26 ans, Naïef Maliyacha, 25 ans, et Ahmad Fashafsha, 22 ans. Dans une attaque contre des civils israéliens qui a causé 3 blessés, Moutaz Kawaja, 23 ans, a été abattu par la police à Tel Aviv. Cette attaque a eu lieu le soir du 9 mars, après le raid de Jabaa. Le 10 mars, 2 Palestiniens ont été assassinés à Kalkilia, dans la matinée, le jeune Abdul Karim Sheikh, 21 ans, habitant de Saniria, à l'est de la ville, a été assassiné par un groupe de colons extrémistes de la colonie de Mahal Shomron. L'armée israélienne n'a arrêté aucun des criminels responsables de cet acte. L'après-midi, 3 personnes ont été gravement blessées lors de la manifestation hebdomadaire contre la colonisation à Kafr Kadoum, à l'est de Kalkilia. L'armée israélienne a gazé des manifestants et tiré à balles réelles sur la foule. Le jeune Amir Odé, 16 ans, a succombé à ses blessures. L'année 2023 démarre donc comme l'une des plus meurtrières du XXIe siècle. 81 Palestiniens et Palestiniennes, dont 13 enfants, ont déjà péri sous les balles de l'armée et des colons. Les Palestiniens tués venaient de Jenin, 31, Naplouse, 18, Hébron, 7, Jérusalem, 6, Qalqilia, 5, Jéricho et la vallée du Jourdain, 5, Ramallah, 3, Gaza, 2, Bethléem, 2, Salfit et Toubas. Et pour tous ces très jeunes gens assassinés, avons-nous entendu une seule condamnation de la part des gouvernements de l'Union européenne ou du président Macron ? Silence absolu, silence abyssal, catastrophe, catastrophe, catastrophe. Voilà. Jean-Yves, on va faire une petite pause musicale.
Oui.
Et tu nous annonces, c'est très...
Donc, la musique, donc on va écouter « Amoureux de la Palestine », qui est un hommage musical à l'unité palestinienne. Et en fait, c'est une nouvelle jeune génération palestinienne qui s'est dispersée à travers le monde, divisée par des barrières linguistiques et temporelles, elle s'est réunie pour produire un exploit lyrique, musical et visuel. C'est chanté par Raaf Shamali à Gaza, Amada Nasrallah et Soul Band à Istanbul, et ça a été composé par Naed El Rayes à Melbourne.
Et ça s'intitule
Ça s'intitule « Amoureux de la Palestine ».«
A Lover from Palestine ».
Voilà.
En anglais.
En anglais.
خذيني أينما كنت
Voilà, merci à ce bel ensemble. Et nous, nous continuons donc par un autre sujet qui est récurrent. Il s'agit de la démolition d'habitations qui se poursuivent à Jérusalem-Est occupée. Ce lundi 6 mars, les autorités israéliennes ont procédé à la destruction de plusieurs habitations dans les localités de Jérusalem-Est occupées. Illégalement, dans la matinée, un raid a notamment eu lieu à Wadid al-Joz. L'armée y a démoli deux maisons appartenant à la famille Tota. 20 personnes habitaient ces deux édifices. L'une des membres de cette famille a déclaré à l'agence de presse Wafa que l'armée avait déjà démoli des édifices où vivait la famille Tota au cours des dernières années. À Wadi al-Joz, l'armée a pris d'assaut le quartier, installé des points de contrôle et bloqué la circulation avant d'évacuer les habitants de maisons et de démolir leur foyer. Ces deux maisons étaient construites sans permis. Argument massu, mais quand on sait qu'à Jérusalem-Est, occupée illégalement, encore plus que dans le reste de la Cisjordanie, il est quasiment impossible d'obtenir un permis de construire quand on est palestinien. Les deux maisons détruites, aujourd'hui, étaient en voie de régularisation depuis plus de 25 ans. Plus de 90% des permis sont en effet réservés aux colons. Au cours de cette même matinée, les autorités israéliennes ont rasé plusieurs habitations de fortune appartenant à des habitants du quartier d'Issaouia qui avaient vu leur maison se faire démolir au cours des derniers mois. Alors là, Jean-Yves, il faut bien voir que je crois que c'est systématique hein, et que la démolition punitive est aussi systématique. Qu'un gamin de 16 ans sort un couteau, on le tue déjà et on va démolir la maison familiale.
La maison de sa famille, oui. Voilà. Punition collective quand un membre de la famille a fait quelque chose comme, effectivement, bon, pas jeter des pierres, encore que, hein, mais il y a toujours une bonne raison pour démolir la maison, sachant que la plupart des constructions ont été faites illégalement. La société palestinienne augmente en nombre de personnes comme les juifs israéliens. Et du coup, ils ont besoin quand même de se loger. Donc, ils rajoutent des étages à leur bâtiment. Et rien que ça, ça permet à Israël de dire « mais c'est illégal, donc on détruit ». Et quand on sait que les familles palestiniennes vivent en communauté, donc c'est souvent des quantités de personnes assez importantes qui vivent sur plusieurs étages. Ouais. Donc c'est une famille complète qui se retrouve à la rue.
Oui, à la rue. Voilà. Il n'y a pas.
À la rue.
Il n'y a aucune politique de relogement, il faut le dire.
L'objectif, c'est quand même de les faire partir pour Israël, de continuer le nettoyage ethnique. Donc, ils ne vont surtout pas s'amuser à se prendre la tête pour reloger les gens. Alors, sachant que quand même, la société palestinienne, c'est une société les gens prennent soin les uns des autres. Oui. Et c'est ce qui permet sa résilience aujourd'hui. Et donc, ils arrivent des fois à se loger chez des amis, des voisins, des parents. Parfois, ils sont obligés de partir, d'aller dans des camps où ils vont retrouver un peu les mêmes problèmes, puisque les camps, pareil, ils s'agrandissent en hauteur, et surtout, ils n'ont aucun statut dans les camps, quoi.
Voilà. Alors, donc, maintenant, un autre sujet vraiment très important et triste. On se souvient qu'au moment du procès Eichmann, Israël avait rétabli la peine de mort pour pouvoir le pendre. Mais une fois qu'il avait été pendu, on était revenu au système habituel. Mais là, je crois que tu as découvert quelque chose qui est absolument terrifiant.
Donc c'est une loi à la Knesset, qui a été présentée à la Knesset, c'est le Parlement israélien, qui demande d'adopter la peine de mort, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est pour la résistance palestinienne, et le mot palestinien est important, parce qu'effectivement, ça ne concerne que les Palestiniens. Donc c'était le 1er mars, la Knesset israélienne a approuvé en lecture préliminaire ce nouveau projet de loi qui vise à appliquer la peine de mort aux prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme. Alors, il faut savoir que quand on dit un Palestinien terroriste, en Israël, c'est un pléonasme, c'est-à-dire que, en fait, tous les Palestiniens sont considérés comme des terroristes, y compris les enfants qui jettent des pierres sur les blindés israéliens. Et projet de loi dit que la peine de mort doit être appliquée à tous ceux qui, intentionnellement, par indifférence, causent la mort d'un citoyen israélien lorsque l'acte est réalisé pour un motif raciste ou par haine d'un certain public et dans le but de nuire à l'État d'Israël et à la renaissance du peuple juif dans sa patrie. On est toujours dans le même discours, bizarre. Hein. Donc l'objectif du projet est de tuer le terrorisme dans l'œuf et de créer une dissuasion importante. On se demande si la dissuasion sera vraiment efficace dans le cas de Palestiniens qui vivent dans des conditions de liberté absolument épouvantables. Donc le ministre israélien de la Sécurité nationale, autre fasciste, on a parlé tout à l'heure de Smotrich, donc là c'est Itamar Ben-Gvir, qui est un colon aussi, qui vit à Hébron, a exprimé son soutien. Donc, il a exprimé son soutien au projet de loi en précisant que la loi n'éradiquera pas entièrement la terreur. Ben, ça paraît tout à fait évident. Mais cette punition est moralement justifiée. Donc, lui, il considère bien que c'est une punition et que c'est pas quelque chose qui est fait pour décourager les terroristes, comme il disait. Alors, pour une fois, bon, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais les affaires étrangères de l'Union européenne, avec leur porte-parole, donc, a déclaré, c'est Peter Santo qui a déclaré au Times of Israel que le projet de loi représentait une punition cruelle et inhumaine et constitue un déni inacceptable de la dignité et de l'intégrité humaine, et que ça n'aura pas d'effet dissuasif sur la criminalité.
Et même les Allemands se sont réveillés, apparemment.
Voilà, même le gouvernement allemand a publié des déclarations suggérant que les relations avec Israël seraient négativement affectées si le projet de loi était adopté. Alors, c'est bien qu'ils disent ça, mais enfin, bon, on a déjà vu que les gouvernements états-uniens, européens, etc., disent non, il faut arrêter la colonisation, il ne faut pas tuer les enfants, etc. Mais bon, il n'y a aucune punition qui est appliquée à Israël pour toutes ces violations des droits humains. Et donc, il y a des groupes de défense des droits de l'homme, experts des Nations Unies et des représentants légaux qui ont appelé à faire pression sur Israël. Effectivement, il faut l'empêcher de faire ça, en lui demandant de renoncer à adopter cette loi, et surtout que la nature du projet vise exclusivement les Palestiniens.
Oui, c'est ce que j'allais te dire, le colon qui serait un meurtrier n'est pas concerné par la loi, donc là on est dans l'apartheid absolu.
Voilà, et on se souvient que lors du soulèvement de l'unité de 2021, donc c'était en fait en 2021, il y avait eu un soulèvement en masse, y compris dans les villes et villages israéliens, c'est-à-dire côté israélien de la ligne verte qui représentait le plan de partage de l'ONU en 1947. Donc il y avait des foules de colons qui se rassemblaient publiquement pour appeler à la mort des Palestiniens. Et depuis, cette expression « Mavet la Haravim », en hébreu ça veut dire « mort aux Arabes », est devenu un écho courant à Jérusalem contre les Palestiniens de nationalité israélienne. Voilà donc ce qu'est en train de devenir la démocratie, entre guillemets, israélienne.
Oui, la seule démocratie du Moyen-Orient, quand même, attention.
Et là, il s'agit vraiment d'apartheid, puisque c'est une loi qui ne s'applique qu'à une catégorie.
Bien sûr. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il n'y a aucun organisme, si, à part les Nations Unies, qui sont capables de réagir avec Madame Albanese. Ouais. Mais les gouvernements européens, l'Union européenne, Il devrait pousser des cris d'horreur, il devrait hurler et dire que c'est inadmissible. C'est très mollement. Donc ça, c'est pas rassurant du tout. Enfin, on va essayer de bifurquer sur un autre sujet qui est la désobéissance massive des prisonniers palestiniens commence. Et se tiendra le procès des évadés, vous savez, de Gilles Voix, qui avait été l'évasion à la cuillère. Oui, parce que ils avaient creusé un tunnel avec des cuillères. Ils étaient arrivés à s'échapper. Évidemment, ils ont été repris parce que les antennes de l'État d'Israël sont... Tout le monde ils savent à peu près où chacun se trouve. Donc, à la suite de l'évasion de la prison de Gilboa, les prisonniers palestiniens ont été confrontés à de lourdes mesures punitives de la part de l'administration pénitentiaire israélienne. Aujourd'hui, alors que se tient le procès des évadés de Gilboa, ils résistent. En septembre 2021, 6 prisonniers politiques palestiniens ont réussi à orchestrer l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire moderne de la Palestine, s'échappant de la célèbre prison de Gilboa et échappant aux autorités israéliennes avant d'être finalement rattrapés après plusieurs jours de fuite. Populairement appelée l'opération du tunnel de la liberté, cette évasion est devenue un moment emblématique pour les Palestiniens. 17 mois plus tard, les 6 de Gilboa sont de retour en prison et confrontés à une audience devant une cour israélienne pour leur tentative d'évasion. Mardi dernier, le 14 février, alors ça date un peu, Zakaria Zoubeidi, 47 ans, Mounadel Noufat, 26 ans, Yacoub Kadri, 49 ans, Mahmoud Arda, 46 ans, Mohamed Arda, cousin de Mahmoud, 39 ans, et Ayam Kamanji, 35 ans, ont comparu devant le tribunal central de Nazareth pour faire face aux accusations. L'appel interjeté pour les 6 prisonniers et pour les 5 autres personnes accusées d'avoir été encouragées et encouragé leur évasion a été rejeté par le tribunal. Oh là là, j'ai un problème technique là. Tu peux continuer, Jean-Yves ? Jean-Yves ?
Oui, je continue.
Oui, tu peux continuer, j'ai un problème technique.
Nous nous attendions, on dédie à ce que la presse soit rejetée. C'est Amani Sarané qui a déclaré ça à la presse, qui appartient à la division de surveillance de la Palestine Prisoners Society. Il est clair qu'il n'existe aucun précédent d'un cas palestinien ayant reçu une réponse positive. Et le même jour que ce procès des 6 de Gilboa, les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes ont annoncé le début d'une désobéissance massive pour protester contre la détérioration punitive des conditions de détention depuis cette évasion. Et il y en a un qui a dit « J'ai oublié les 29 années passées dans ces prisons à l'instant où je suis sorti du tunnel. » Il y en a deux qui ont été, Arda et Kadri, qui ont été les premiers à être capturés après leur éphémère moment de liberté. Et Mahmoud m'a dit qu'il était entré dans un pré où se trouvaient des vaches. Ça, c'est Mohamed Arda qui a raconté. Et le frère aîné de Mahmoud, architecte de l'évasion, et il a dit que s'il avait eu un appareil photo, il aurait pris des photos avec la vache qui était dans le pré. Donc ils ont mangé de la grenade et du cactus. A poursuivi Mohamed dans le même souffle, relatant le récit de son frère sur ses 5 jours de liberté. Depuis leur capture, ils sont maintenus à l'isolement, sous prétexte qu'ils constituent une menace pour la sécurité nationale israélienne. Ils ont été transférés en permanence d'une prison à l'autre, toutes les quelques semaines, et parallèlement à l'audience des 6 hommes mardi, le mouvement des prisonniers a lancé une campagne de désobéissance civile de masse contre l'emprise croissante des autorités israéliennes sur leurs conditions de vie. Alors, il faut quand même savoir que la Société des prisonniers palestiniens a annoncé il y a aujourd'hui 4780 prisonniers palestiniens qu'ils ont répartis dans 23 prisons israéliennes. Certains détenus, parmi lesquels des enfants, sont transférés de Cisjordanie vers des prisons construites au-delà de la ligne verte. La ligne verte, donc, c'est, je rappelle, c'est la ligne qui sépare, suivant le plan de l'ONU de 47, Israël de la Palestine. Et il faut savoir que le droit international interdit à un État occupant un autre, Israël occupant la Palestine, pour eux, et donc il est interdit de transférer des Palestiniens vers Israël. Mais ils ne se gênent pas pour le faire. Et donc, lors de l'appel, les 6 accusés ont vu leur peine alourdie de 5 ans. Et ceux accusés de les avoir aidés et encouragés sont condamnés à 4 ans supplémentaires. Donc, la plupart sont condamnés à la prison à vie. 5 années de plus, alors qu'ils sont condamnés à 99 ans, plus 5 années. Bon, en fait, ce n'est rien, c'est un peu comme Marwan Barghouti, donc un des leaders palestiniens, qui est en prison pour plusieurs... il a été condamné plusieurs fois à la perpétuité. Hein. Et pour les détenus palestiniens, les conditions qu'ils doivent endurer dans les prisons israéliennes s'apparentent à une sorte de mort, parce qu'ils ne savent pas du tout quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir. Et donc, le comité d'urgence des prisonniers, qui a publié une déclaration qui condamne le dernier appel du ministre de la Sécurité nationale, le fameux Itamar Ben-Gvir, hein, le fasciste, oui. En chef, ou presque. Donc il a demandé à priver les prisonniers de l'accès à l'eau en leur limitant le débit d'eau à une heure par jour pour un usage collectif. Voilà. Donc comment se comporte cette société israélienne? Je continue?
Jean-Yves, je vais passer directement à ma prochaine intervention, qui est Giro d'Italia et Tour de France, ne pédalez pas pour l'apartheid israélien. Et on reviendra, si on en a le temps, à ce que tu devais... Voilà. Alors que le régime apartheid israélien dirigé par le gouvernement le plus raciste et le plus fondamentaliste qu'il ait jamais connu intensifie son oppression violente des Palestiniens, deux des plus grandes courses cyclistes du monde font tout leur possible pour aider Israël à dissimuler ses crimes dans le cadre de compétitions sportives. Le Giro d'Italia, il Giro, du 6 au 28 mai, et le Tour de France, du 1er au 23 juillet, ont adressé des invitations spéciales à l'équipe de cyclisme parrainée par le gouvernement israélien. Le Giro d'Italia et le Tour de France récompensent honteusement Israël pour sa folie meurtrière à l'égard des Palestiniens, ses ministres incitant au meurtre, son soutien aux milices de colons se livrant à de violents pogroms dans les villes palestiniennes, les démolitions de maisons palestiniennes et l'expulsion forcée des Palestiniens de notre terre. Comme le montrent Amnesty International et Human Rights Watch, Israël est coupable du crime contre l'humanité qu'est l'apartheid. Ces colonies illégales, en expansion constante sur des terres palestiniennes volées, constituent un crime de guerre au regard du droit international. L'équipe de cyclisme israélienne, créée par un milliardaire israélo-canadien, s'est davantage concentrée sur son objectif déclaré de blanchir par le sport le régime d'occupation militaire et d'apartheid israélien qui dure depuis des décennies que sur le cyclisme. C'est sûr que ce qu'on a vu, c'est typique, hein, ça, c'est qu'il s'agit de blanchir grâce au sport. Le régime d'apartheid israélien est tombé si bas dans les classements qu'il a été relégué du World Tour. Il n'est plus éligible pour une participation automatique au Grand Tour de cyclisme et a besoin d'invitations spéciales. Donc là, c'est un passe-droit, en somme. Initialement, l'équipe israélienne n'était pas non plus autorisée à participer aux courses par étapes du World Tour, au-delà des courses de haut niveau. Et là, patatras, quelque chose qui est un genre d'infamie, l'UCI, l'organisme international régissant le cyclisme, qui prétend être une organisation politiquement neutre, a honteusement apporté un changement de dernière minute dans ce qui est appelé la règle israélienne, entre guillemets, qui offrira, entre guillemets, au régime d'apartheid israélien des invitations automatiques à ses courses. Dans une démonstration d'hypocrisie typiquement occidentale, l'UCI a immédiatement sanctionné la Russie quelques jours seulement après son agression illégale contre l'Ukraine. suspendant toutes les équipes russes et biélorusses et interdisant tous les événements de l'UCI en Russie et en Biélorussie, alors que non seulement elle ferme les yeux sur les graves crimes commis par Israël contre les Palestiniens depuis des décennies, mais elle réécrit ses propres règles pour désigner Israël comme bénéficiaire de ses généreuses récompenses. Appel. En tant que Palestiniens, nous refuserons de rester silencieux tant que nous n'aurons pas atteint notre propre ligne d'arrivée, à savoir la liberté, la justice et l'égalité pour tous. Rejoignez-nous et veillez à ce que l'UCI, le Giro d'Italia et le Tour de France reçoivent le message suivant. Il n'y a pas de place dans le cyclisme pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Vous l'aurez compris, on est encore dans un système bien réglé du deux poids et deux mesures. Voilà, Jean-Yves, il nous reste 4 minutes. Hein.
Alors, rapidement, toujours dans...
Deux minutes, Jean-Yves, oui. Deux minutes.
Toujours dans le même domaine de ce qui se passe et des appels BDS. Bon, là, c'est Amnesty qui demande à ce que Hyundai mette fin à ses liens avec les crimes de guerre à Massafer Yatta. En fait, Hyundai Construction Equipment vend à l'armée israélienne des pelleteuses, des gros machins pour démolir les biens immobiliers palestiniens. Toutes ces opérations dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors, si tu permets, je voudrais quand même rapidement revenir sur l'autre information sur ce qui se passe en Israël. Il y a le cabinet israélien qui vient de promouvoir un véritable apartheid en Cisjordanie. C'est-à-dire que le ministre de la Défense, qui était en fait jusqu'à présent responsable de l'administration, entre guillemets, civile, des Palestiniens en Cisjordanie, et non pas des colons, hein, donc il a cédé sa place au ministre Bezalel Smotrich, dont on a parlé tout à l'heure, donc on l'a qualifié, parce que ce n'est pas possible de faire autrement, de fasciste. Et en fait, depuis le début, Smotrich dit il faut foutre les Palestiniens dehors. Tu as parlé tout à l'heure de son discours qu'il a fait devant une carte d'Israël, incluant la Cisjordanie et même la Jordanie, le plateau du Golan, etc. Et aujourd'hui, il est en fait le vrai gouverneur de la Cisjordanie et c'est lui qui va détenir tous les pouvoirs qui lui permettront de contrôler les domaines de la vie, planification, construction, infrastructure. Et il a bien l'intention d'utiliser ses pouvoirs pour étendre l'entreprise coloniale et mettre fin à tout développement palestinien.
Voilà.
Alors si ça, c'est okay. Pas de l'apartheid, voilà. C'est quand même... Quand même, on ne peut pas dire le contraire. Quoi.
Ok, voilà, Jean-Yves.
Ça me paraissait important.
Bon, voilà, notre émission est terminée. Au mois prochain, merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.
Au revoir. Bintish Shalabi.